Chers amis auditeurs d'Opéra Agora, bonsoir. J'espère que vous avez terminé cette année 2024 dans la joie. Et Nancy Zottier et moi-même vous souhaitons une bonne année 2025. Année musicale, pleine de grands airs d'opéra, bien sûr. Nous avons entrepris d'évoquer les titres les plus célèbres du répertoire lyrique, ces chefs-d'œuvre dont on ne se lasse pas et qui continuent d'enchanter les mélomanes. Ce soir, nous évoquons les Noces de Figaro de Mozart. Opéra célébrissime, créé en 1786 à Vienne, d'après la pièce de Beaumarchais, sur un livret de Lorenzo da Ponte. C'est un opéra bouffe, plein de virtuosité, dans lequel Mozart déploie tout son génie. L'intrigue, pleine de quiproquos, propre au théâtre comique, est pleine de rythme et de malice. Toutefois, Mozart avait eu beaucoup de difficultés à faire jouer cet opéra, que la noblesse voulait absolument censurer, car l'aristocratie s'y trouve ridiculisée par la domesticité. Mais la qualité exceptionnelle de la musique de Mozart a fait triompher de tous les obstacles et finalement, l'empereur François-Joseph II céda et l'opéra fut un triomphe. Les personnages sont nombreux et chacun avec une très forte identité. Voici la distribution des rôles. Le comte Almaviva, baryton. Figaro, son valet, baryton. Le docteur Bartolo, basse. Don Basile, maître de musique, ténor. Chérubin, page. C'est un mezzo-soprano travesti en garçon. Antonio, jardinier, basse. Don Curzio, homme de loi, ténor. La comtesse, soprano. Suzanne, sa soubrette, soprano. Marcellina, duègne, mezzo-soprano. Et Barberine, la jeune domestique, soprano. L'action se passe au XVIIIe siècle, donc du temps même de Mozart à Séville. Pour nous mettre dans l'ambiance, écoutons l'ouverture célébrissime de cet opéra. Écoutons l'ouverture. L'action débute. Figaro mesure sa chambre et s'adonne aux préparatifs de son mariage avec Suzanne. Mais il se méfie du comte, lequel a des vues sur la belle Suzanne. Et il chante sa mauvaise humeur dans un court menuet de mise en garde à son maître. « Si tu veux danser, mon petit seigneur comte, eh bien, nous verrons ce dont tu es capable, mais je te surveille de près. Écoutons ce joli moment musical. Écoutons Figaro. Écoutons le beau baryton Vito Priante.
Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì. suonerà. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, 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 ma piano, 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 piano. Meglio gli arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arte doprando, chi va fungendo, chi va scherzando, tutto un macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doprando, chi va fungendo, chi va scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Conti, se vuol ballare, signor Conti, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Arrive Bartolo et Marcelline, à qui Figaro a joué de nombreux tours et qui cherche vengeance. Et la vengeance est un plat réservé aux sages, chante Bartolo de sa voix de basse bouffe. Écoutons Peter Kallman, La Vendetta.
È un piacere serrato ai santi, è un piacere serrato ai santi. Obliare non te io draggi, obliare non te io draggi, e bassezza e ognore pietà, e bassezza, e ognore pietà, e ognore pietà. Con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, il fatto è serio, ma credete si farà? Ma credete si farà? Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, dai che garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, dai che garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà, si troverà. Tutta la terra conosce Bartolo, il birbo Figaro vostro sarà. Tutta la terra conosce Bartolo, firmo Figaro.
C'est le type même de l'air pour basse bouffe, avec toutes les subtilités de style, les sous-entendus, les menaces inabouties, bien sûr. L'orchestre ironique, avec ses gammes aux cordes, qui ponctue les propos dignes de la commedia dell'arte. Après ces deux personnages grotesques, que sont Bartolo et Marceline, arrive le jeune page Chérubin, qui, au sortir de l'adolescence, s'intéresse vivement aux femmes et il fait la cour à tous les jupons qu'il rencontre, comtesse ou domestique. C'est un personnage travesti, ainsi que la mode le présentait souvent à l'opéra. C'est-à-dire une mezzo-soprano au physique crédible en jeune homme. Chérubin chante son trouble. « Je ne sais plus ce que je fais. Je suis agité par les troubles amoureux de mon âge. » C'est l'occasion pour Mozart de nous peindre un portrait musical dont il a le secret. Il faut dire que ce personnage de Chérubin lui ressemble terriblement. Lui qui est encore finalement un jeune homme de 30 ans, espiègle et aussi terrible coureur de jupons. Écoutons la mezzo Gabriele Sima.
Io non te la renderò più bella vita.
Cos'è questa insolenza?
E via sta cheta. In ricompensa poi questa mia canzonetta io ti vorrò. E che ne debbo fare? Leggila la padrona. Leggila tu medesima. Leggila barbarina marchesina. Leggila d'ogni donna del palazzo. Oh, vero che rove siete voi pazzo. Non so più cosa sono, cosa faccio. Pur di fare una sola ghiaccio. Ma mi vuole cambiar di colore. Ma di dona mi fa palpitare. Ma di dona mi fa palpitare. Ma di dona mi fa palpitare.
Thank you.
très musical, plein de vivacité et de jeunesse effrontée. Le comte Almaviva pardonne son effronterie à Chérubin, mais à condition qu'il fasse son service militaire et devienne un homme plus mesuré. Et c'est donc sur ce trait humoristique que se termine ce premier acte, en se moquant de ce que la vie militaire promet au jeune chérubin, effondré devant la perspective de cette nouvelle vie. Écoutons Mozart lui décrire son avenir dans un air martial, dans la grande tradition de l'opéra bouffe. Non più andrai, farfalone amoroso. Tu n'iras plus, papillon amoureux, assaillir les belles. Et le comte expédie Chérubin chez Figaro, le barbier, qui, lui, va lui chanter les joies amères de la vie de soldat, sur un ton, bien entendu, très humoristique. Écoutons Joshua Bloom. Non più andrai, farfalone amoroso.
Non più andrai, farfalone amoroso. Notte e giorno d'intorno girando. E volando e riposo. Narcisetto ad un giro d'amor. E volando e riposo. Narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai, farfalone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle durande e riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Nelle belle durande e riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Tra guerrieri popper bacco, grambo stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sabbia al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valori, con le nevi e solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai farfalone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle domande e riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Belle belle domande e riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Che rovino alla vittoria, alla gloria militar. Che rovino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria militar.
Le deuxième acte commence par l'air célèbre de la comtesse. qui, toute émue et en larmes, prie pour que son mari, le comte Almaviva, retrouve son amour pour elle. Au lieu que de faire la cour à Suzanne, la domestique. C'est un air très lumineux qui ressemble davantage à un air de tragédie plutôt que d'introduire le vaudeville qui va suivre. C'est du grand Mozart, celui de l'inspiration de sa musique religieuse. Une merveille. Écoutons Porgi amor qualche ristoro. Amour, apporte-moi ton soutien ou laisse-moi mourir. Il est évident que le rôle de la comtesse demande un soprano de grande qualité vocale et de majesté scénique. Écoutons la sublime Renée Fleming. Porgi amor. Intensité intérieure. Quelle maîtrise de la voix et du vibrato par l'incomparable Renée Fleming. Il s'ensuit maintenant un imbroglio qui va durer jusqu'à la fin du deuxième acte, avec quiproquo, changement de personnage entre eux, pour tendre un piège cocasse au comte. Tout d'abord, il s'agit de faire intervenir Chérubin, qui, bien sûr, n'est pas parti au service militaire, de le grimer en femme pour se faire passer pour Suzanne, puis Suzanne et la comtesse interchangeront leurs vêtements. Et surtout, Figaro laissera entendre que la comtesse a reçu une lettre anonyme lui donnant un mystérieux rendez-vous. Tout cela, bien sûr, pour mettre le comte dans l'embarras, lui qui ne pense qu'à retarder le mariage de Figaro avec Suzanne, afin de pouvoir continuer à courtiser celle-ci. Chérubin en profite pour continuer à flirter avec tous les jupons présents. Il demande innocemment à Suzanne et à la comtesse de lui donner des leçons sur le comportement amoureux. Vous, mesdames, qui savez vraiment ce qu'est l'amour, instruisez-moi donc. Impertinence, fantaisie, jeunesse font de l'air qu'il chante un de ses chefs-d'œuvre qui est dans l'oreille de tout un chacun et qui est aussi l'un des airs les plus connus de Mozart et du répertoire lyrique. Voi che sapete che cosa è l'amore, vous qui savez ce qu'est l'amour. Écoutons, Chérubin, écoutons Marta Fontanals.
Encore un Côte d'Azur.
personnage demande une voix coquine, souvent interprétée par une mezzo, quelquefois une soprano. Et bien sûr, il faut un abattage scénique approprié à l'effronterie du personnage. Et c'est le moment du grand final du deuxième acte, qui dure 20 minutes à lui seul, et où chaque personnage apparaît en s'additionnant à la scène. Le duo devient trio, puis quatuor, quintette, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les personnages soient en scène et chantent une partition d'une très grande science polyphonique et d'une grande beauté. Personnellement, j'ai toujours eu un immense plaisir à diriger ce final, qui est un pur joyau de fantaisie et de rigueur. Un peu du Offenbach avant la lettre, avec la signature d'un immense génie. Écoutons le début de ce final.
Signori, poi, sortai sulla pole, e come si dice, i tifferi, da qualche troppo di dentro, i vassalli, vogliamo, vogliamo, e non si accontire, vogliamo, vogliamo, e non si accontire, andiamo in fretta, la curva m'aspetta, andiamo in fretta, quando mi accoglietemi in via di partire, in via di partire,
ma così scabrò.
Il est si long, mais on a déjà un aperçu du génie de la science musicale, de la polyphonie de Mozart. Le troisième acte comporte trois éléments musicaux de grande importance, à savoir deux airs d'opéra devenus légendaires et le maintien du ballet qui termine l'acte et inaugure les noces de Figaro et de Suzanne. Car le ballet, souvenez-vous, le ballet était interdit dans un opéra. Et il a fallu que l'intelligent empereur François-Joseph II revienne sur sa décision et donne raison à la musique de Mozart. Au début de l'acte, nous assistons à la colère du comte. Le comte qui se voit sans cesse empêché de courtiser Suzanne à cause des ruses de Figaro. Figaro est même sur le point de gagner son procès avec Bartolo et Marcelline. Le comte explose de rage dans cet air célèbre. Hai già vinto la causa. Ah, tu as enfin gagné la partie, crois-tu? Écoutons le baryton Jérôme Boutillier. Baryton français, je le souligne, nous en avons aussi. Hai già vinto la causa.
Hai già vinto la causa. Cosa sento? In quel laccio cadea. Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio, la sentenza sarà. Ma se i pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò va un raggiro. Il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro felice. Vedrò per man d'amore unita un vile oggetto che in me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro felice un servo mio e un bel che in vane che io desidero posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unita un vile oggetto che in me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò.
Un air complet, avec récitatif d'orchestre et vocalise finale. Un chef-d'œuvre. À ce moment musical, lui répond un autre monument. L'air sublime de la comtesse, plein de tristesse et de noble sérénité. C'est un air chanté à mezza voce, l'une des plus belles mélodies de Mozart, qui fait le bonheur des sopranos et qui est quasiment obligatoire dans les concours de chant lyrique. Dove sono i bei momenti? Où sont passés les bons moments? Écoutons la sublime Kiri Te Kanawa. Je l'adore. Dove sono i bei momenti? assistons là à une leçon d'interprétation vocale et dont on doit toujours s'accommoder ce chef-d'œuvre absolu, véritablement une voix quelconque, une interprétation médiocre ne convient pas. Cette musique ne le supporte pas. Puis la joie reprend force et vigueur. Et le ballet, ce ballet qui était censuré pendant des années et des années, eh bien, voit le jour et termine l'acte. Le quatrième et dernier acte nous conduit au dénouement. Il débute prudemment avec un peu d'angoisse. En l'occurrence, Barberine, la toute jeune soubrette, a perdu l'épingle qui cachetait la lettre destinée au comte. C'est la fameuse lettre pour avertir que la comtesse aurait, entre guillemets, un rendez-vous avec un mystérieux admirateur. Bien entendu, tout cela pour essayer de raviver la jalousie du comte et qu'il laisse enfin Suzanne tranquille et qu'elle puisse enfin épouser tranquillement Figaro. Barberine est affolée. Elle cherche désespérément l'indispensable petit objet. Cette petite, toute petite épingle en or qui doit être le cachet de cette lettre, la fermeture, afin que cela reste bien entendu quelque chose de secret. C'est un air très court et inattendu en fin d'opéra. Ombre et lumière, ce cher Mozart. Air pour les chanteuses débutantes, qui toutes s'y sont risquées. L'ho perduta, chissà dove sarà. Je l'ai perdue, qui sait où elle sera. Écoutons Patricia Petitbon. L'ho perduta.
L'ho perduta, la meschina, ma chissà dove sarà, ma chissà.
De l'orchestre en sourdine, une émission vocale en demi-teinte, une atmosphère de tendresse angoissée qui convient à la jeune Barberine. Personnellement, j'adore ce petit bijou. Et nous arrivons au dénouement. Avec tous ces déguisements, le pauvre comte ne sait plus qui est qui. Il fait la cour à sa propre femme en croyant que c'est Suzanne, car elle est déguisée avec les vêtements de Suzanne. Et elle chante un air. Elle est déguisée en comtesse Suzanne. Qui est qui? On ne sait plus. Bref, Suzanne chante enfin un air. Et le comte croit bien entendu que c'est Suzanne. un air plein de sensibilité pour le mystérieux personnage qui est le rival imaginaire du comte. « De vieni, non tardar, viens, viens, ne tarde pas. » Écoutons Julie Fuchs, notre belle soprano nationale. « De vieni, non tardar. »
Yeah.
la vérité finira par éclater. Et finalement, le comte présentera ses excuses et redeviendra amoureux de la comtesse. Tout est bien. Mozart et Da Ponte ont ridiculisé la noblesse. Le message de Beaumarchais a été sublimé par la musique. Écoutons ce final mozartien, s'il en est. Contessa, perdona. Pardon, comtesse. Je vous laisse savourer cette merveille et Nancy et moi vous donnons rendez-vous le mois prochain et surtout nous vous renouvelons nos vœux de bonne année 2025. Année musicale, bien sûr. Bonsoir.